Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap avec Aurélie Barbuchia. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie.
Alors d'ordinaire, je commence l'émission par la phrase rituelle « Je reçois ce jour ». Eh bien, aujourd'hui, je ne reçois pas, je suis reçu. Et je vous en remercie. Je suis dans un lieu pétri de charme et de culture. Mon hôtesse est une jeune femme au parcours déjà bien rempli. Un parcours qui, disons-le, fait un peu rêver. Vous allez en juger. Bonjour Aurélie Barbuchia.
Bonjour.
Alors où sommes-nous ?
On est au Théâtre Olympe de Gouges de Montauban. Voilà, on est situé dans le cœur de ville. Et on est dans ce théâtre, en effet, un théâtre historique, qui est la scène municipale, une des deux scènes municipales de cette cité d'Ingres. Voilà.
D'Ingres et pas d'Ingres.
Et de Bourdel, aussi dingue que d'Ingres.
Et Bourdel aussi, avec un fabuleux musée.
Avec un très beau musée qui se situe à proximité du théâtre. D'ailleurs, il y a une seule rue qui nous sépare.
N'ai pas encore visité parce qu'il a été refait.
Il a été entièrement rénové. Et, voilà. Et il vaut le détour. C'est vraiment une pépite, là, aujourd'hui. Voilà.
Peut-être une prochaine émission, ce sera donc dans le musée. Alors, qui était Olympe de Gouges ? Parce qu'il faut quand même dire qui était cette grande dame.
Une combattante.
Oui.
Une combattante, une femme qui s'est battue pour ceux qui étaient mis de côté, mis à l'écart, et notamment pour les femmes. Elle a eu le toupet. De demander quand même une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et aujourd'hui, on parle des droits humains plutôt que de parler des droits de l'homme, même si on met un H majuscule. Donc c'était une avant-gardiste. C'est celle grâce à laquelle je me retrouve aujourd'hui directrice, je pense. Je pense que je lui dois.
Assez fière quand même de voir qu'il y a une jeune femme qui dirige le théâtre, qui porte son nom dans sa ville.
Mais je dois vous faire la confidence que quand on m'a confié cette très belle mission de diriger le Théâtre Olympe de Gouges et les salles de spectacle en général, j'ai tout de suite rétorqué à Madame le maire, mais vous savez, de toute manière, vous n'auriez pas pu faire autrement que de mettre à la direction une femme. Et alors, c'est vrai qu'elle elle a eu un petit temps d'arrêt et elle s'est dit « Ah mais oui, mais en effet ». Olympe de Gouges n'aurait absolument pas apprécié que ce soit mis entre les mains d'un homme, mais pour la simple et bonne raison qu'elle s'est battue et qu'elle en a perdu la tête pour nous.
Alors perdu la tête au sens premier du terme.
Exactement.
Elle a mal fini, elle a été guillotinée en place de grève. Hein. Alors elle est née en 1748.
C'est une jusque-boutiste. Hein,
et elle a été guillotinée pendant la Révolution 1793, le mauvais moment de la Révolution, on va dire.
Hein. Oui.
Elle a été écrivaine, dramaturge.
C'est ça, elle avait un amour, une appétence pour le théâtre, pour les lettres. C'était une femme de lettres. C'était une femme. On la présente parfois comme une hystérique.
C'est une femme très
raffinée qui aimait particulièrement les belles lettres et qui avait aussi beaucoup de talent dans l'écriture et beaucoup d'audace, d'imagination. Voilà, c'est un modèle. C'est une grosse responsabilité que d'avoir un théâtre qui se nomme Olympe de Gouges. Et je suis très attentive au choix de programmation. J'essaie de mettre en avant aussi des autrices, des metteuses en scène, des chefs avec deux FE d'orchestre. Voilà, on essaie.
Et un dernier point avant de venir sur votre parcours, dont je parlais à l'instant. L'Italie, c'est un... quelque chose qui compte beaucoup pour vous, Barbuchia, c'est...
Oui, l'Italie, c'est dans mon ADN, d'une part, parce que c'est un héritage familial.
Vous êtes née à Aix-en-Provence, quand même.
Je suis née à Aix-en-Provence.
Pas trop loin de l'Italie, c'est vrai.
Voilà, oui, bon, c'est vrai qu'on sent déjà un peu l'Italie quand on est dans le sud-est. En tout cas, on commence à sentir la Ligurie. Mais ma famille, enfin, du côté paternel, eh bien, est une famille sicilienne. Ça parlait le sicilien, hein, le dialecte, d'ailleurs. Donc voilà, c'est une langue dans laquelle j'ai un peu bercé et baigné durant mon enfance. Et puis après, dès que j'ai pu, c'est-à-dire vers 19 ans, j'ai pris la poudre d'escampette et je suis allée vivre 10 ans en Italie, et là, en l'occurrence, en Toscane. au cœur de la langue de Dante Alighieri. Voilà.
Vous n'avez pas trop mal choisi. Alors, votre parcours, vous avez fait énormément de choses. Encore une fois, je le dis, vous êtes jeune. Vous avez une thèse de doctorat que vous avez faite au département d'histoire et de civilisation de l'Institut universitaire européen de Florence. Alors, vous l'avez faite sur...
Alors, sur Rossini, et plus particulièrement sur le recrutement de compositeurs italiens sous la restauration de Louis XVIII, et notamment une forme d'archéologie d'une politique culturelle menée à l'époque de la restauration. Voilà, donc c'est de l'histoire culturelle et contemporaine. Et je me suis régalée à faire ces études qui, d'ailleurs, ma thèse de doctorat ressemble peu ou prou à une pièce de théâtre. En réalité, je l'ai construite et je l'ai écrite à la manière d'une pièce. Il y a des actes, et tout mon questionnement et mon raisonnement est finalement extrêmement romanesque. Voilà, il y a beaucoup de... Mais c'est passionnant.
Alors, auparavant, vous aviez fait un master 2 dans une spécialité musique et musicologie.
Oui, art du spectacle en général, musique, musicologie en particulier. Oui, voilà, j'avais une appétence toute particulière pour l'art musical en premier, même si tous les arts m'intéressent. J'ai toujours fait des choix de cœur. Donc, quand on m'a demandé ce que je pensais faire comme étude, j'ai dit ce que j'aime. Et donc, j'aimais la musique, j'avais envie d'en savoir plus. J'ai fait donc de la musicologie. Et puis après, j'ai bifurqué en histoire. Et voilà, je me suis aventurée dans des terrains dans lesquels je me sentais bien. Voilà.
Voilà, il n'y a pas une recherche particulière de carrière derrière en disant.
Jamais, il n'y a jamais eu de.
Donc c'était des études à la fois plaisir un peu quand même.
Toujours, toujours. Je ne conçois pas le travail sans le plaisir. Et je travaille beaucoup, si bien que je ne vois plus après, il n'y a plus de ligne de démarcation entre le plaisir et le travail. Voilà, donc oui, toujours, toujours. Le travail, pour moi, doit être un plaisir au quotidien. Je me lève le matin en sachant que c'est la passion qui me lève, ce n'est pas le reste.
C'est une tradition familiale, la musicologie, la musique, l'art.
Pas vraiment la musique. Moi, je suis une enfant de la balle. Hein. Je suis née dans une famille de théâtreux. Donc, c'était le théâtre. Hein. Mon père est metteur en scène, directeur de théâtre. Il est comédien aussi. Et donc, j'ai baigné dans ce milieu théâtral, purement théâtral. Alors, bien sûr, j'ai fait le conservatoire. Donc, j'ai eu des petites notions musicales à travers la pratique instrumentale, collective, un peu de musique de chambre. J'ai beaucoup chanté, j'ai fait du chant lyrique. Et donc, tout ça a été ma construite. Mais globalement, dans ma famille, l'héritage était plus théâtral que musical.
Vous avez beaucoup travaillé au Festival d'Aix-en-Provence, qui est proche de vous. Je crois que c'est votre père qui le dirige.
Ah, du tout.
Non, je croyais que c'était votre père.
Non, rien à voir avec la... Non, mon père a un théâtre en Avignon. Qui bat son plein à la fois pendant l'hiver et pendant bien sûr la période estivale du Festival d'Avignon. C'est une scène qui a été créée l'année de ma naissance et qui n'a cessé d'exister, qui existe encore aujourd'hui à Avignon, parmi les théâtres les plus reconnus du off. Mais le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, ça c'est vraiment un autre volet de ma vie. J'ai été dramaturge.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dramaturge? Parce que nos auditeurs ne sont pas forcément au fait de tous ces termes.
Oui, c'est vrai. Alors, le dramaturge dans le monde de l'opéra, hein, qui est un monde très particulier, c'est une personne qui fait le lien entre, on va dire, la communication et la direction artistique. C'est-à-dire qu'elle cherche par tous les moyens et tous les supports, les corpus, les médias tous les outils, permettre au public de s'emparer et de s'approprier des représentations, des spectacles qui sont mis en œuvre. Et donc, l'idée, c'est d'être toujours en lien permanent avec les artistes dans la construction, dans leur processus créatif, etc., de s'en nourrir et de trouver les moyens de revenir vers le public pour... Donc, ça passe par de la rédaction. Et j'ai écrit tous les programmes de salles, tous les articles, les interviews, je les réalisais. Enfin, voilà, ça passe par beaucoup de choses comme ça. Et ça passe aussi par de l'oralité, puisqu'il y a toutes les conférences à donner, des préludes avant les spectacles, etc. Donc, il y a tout un temps comme ça de...
Alors, si je comprends bien, un dramaturge, c'est un communicant intelligent et cultivé, c'est ça?
Ça demande une expertise, en effet. Hein. C'est, voilà, il ne suffit pas d'aimer et de prendre le temps d'avoir cette proximité avec les artistes. Il faut aussi, en effet, on va dire, s'y connaître assez pour pouvoir après peut-être trouver un moyen de le mettre à la portée aussi de tout le monde. Mais voilà, ça, tous les publics m'intéressaient et donc je faisais le yo-yo, on va dire, entre les artistes et le public. Donc c'est un métier formidable là aussi.
Vous avez été conférencière, vous avez écrit aussi. Qu'est-ce que vous avez écrit? J'ai une liste là d'articles.
Hein. Bon, j'ai écrit beaucoup d'articles en lien avec, bien sûr, mes recherches. Donc, dans le cadre du doctorat, c'est un peu la course à l'écriture, en plusieurs langues d'ailleurs, souvent en anglais, en italien, etc., dans plusieurs revues. Donc ça, ce sont des articles plus dits scientifiques, académiques. Plus spécifiquement, j'ai écrit un livret d'oratorio profane qui a eu un prix Beaumarchais, la SAC des Beaumarchais, qui s'intitulait « La mère de tous les mots » et « Mère M-E-R de tous les mots M-A-U-X ».
Parce qu'ici, il y a les mots de la mer aussi,
exact,
mais c'est autre chose.
Et puis aussi, j'ai adapté et réécrit un texte théâtral, là aussi, autour de Brecht, et notamment de son exil. Voilà, donc je me suis là aussi amusée à écrire, mais je ne me dis pas, voilà, je ne suis pas autrice, je flâne.
Oui, ben c'est ce que disent beaucoup de gens qui écrivent en disant « Non, je ne suis pas auteur, je ne suis pas romancier, mais on a déjà quand même énormément d'écrits, de mots derrière nous. » Donc, on peut dire que vous êtes une autrice ou je ne sais pas comment il faut dire, une auteure.
Oui, alors, oui. Moi, compliqué. J'aime bien le mot autrice parce qu'au moins, on entend tout de suite la différence.
Vous avez fait des adaptations aussi?
J'ai fait des adaptations, en effet, toujours dans le domaine, on va dire, théâtral ou opératique, oui. Voilà, donc travailler avec des metteurs en scène. J'ai aussi chanté, été sur scène. Enfin voilà, j'ai fait un petit
vous
peu.
C'est dans quel registre lorsque vous chantez?
Bien, j'étais dans le registre lyrique. Hein. J'ai pas mal travaillé dans le registre lyrique. Puis je me suis arrêtée un moment.
Soprano,
oui, j'étais. Ouais. Et puis voilà, il y a un moment de ma vie où je me suis dit que j'avais envie d'être de l'autre côté, que j'avais pas forcément envie d'être sur les routes. C'était un métier compliqué que celui d'artiste. C'est un métier que j'admire et que je respecte au plus haut point et en même temps que je n'avais pas envie d'exercer tout au long de ma vie.
Oui, c'est quand même très dur ça.
C'est très dur.
Ça veut dire qu'il faut, vous disiez que vous étiez l'enfant de la balle, ça veut dire qu'il faut reprendre la roulotte comme autrefois.
Exactement, exactement.
Il faut repartir un peu.
Voilà, c'est toujours
partout.
Une vie avec une valise. Mmh. Ça fait rêver beaucoup de monde, mais je pense que si les personnes qui en rêvent connaissaient la réalité du terrain et ce que ça veut dire, le quotidien d'un artiste, tous ne seraient pas prêts de franchir le seuil, de faire ce pas-là. Hein.
C'est un métier où il y a beaucoup de concurrence.
C'est un métier où il y a fatalement de la concurrence et en même temps où je trouve que chacun peut déployer ce pour lequel il a été créé et ce qu'il est. Je crois que vraiment, c'est un métier qui est méritocratique au plus haut point parce que finalement, il suffit de se mettre à nu sur scène et ça marche ou ça ne marche pas, c'est le public qui le déterminera, mais tout le monde peut se lancer. Voilà, je dirais que...
Il y a beaucoup de jeunes qui prennent cette voie. Ah, d'abord pour l'apprendre, parce qu'il faut des dispositions particulières, hein, peut-être même un peu physiques, ou alors n'importe qui peut aborder le chant. Venir
par rapport au chant
soprano, oui.
Le chant lyrique, notamment, ça demande une technicité toute particulière.
Technicité où il faut déjà avoir un corps conformé à...
Alors, bien sûr, ça se voit déjà et ça se lit sur le visage, les traits, les résonateurs au niveau du visage. On comprend tout de suite déjà si quelqu'un...
Que c'est un résonateur.
C'est au niveau, vous voyez, entre le nez,
les
parois nasales,
ouais.
Voilà, les pommettes, à ce niveau-là, il y a une caisse de résonance naturelle.
Donc, vous voyez,
qui est propice au lyrique.
À la morphologie.
Puisque...
Alors, moi, ma morphologie, vous pensez que j'aurais pu être ténor ou baryton?
Bon, j'aurais du mal à le dire, mais voilà, c'est vrai que la voix, de toute manière, est très intime. Elle est liée à la personne, elle fait partie intégrante du corps et c'est vrai que tout le monde n'a pas des prédispositions pour le chant lyrique notamment. Et puis après il y a tout un travail de longue haleine avec justement une hygiène de vie qui est tout à fait très contraignante, extrêmement contraignante, pas toujours compatible du coup avec le milieu du spectacle. Voilà, donc c'est un domaine qui nécessite beaucoup de sacrifices pour ceux qui décident de s'y lancer et de l'emprunter. Alors, mais il y a heureusement des élus et il y a des jeunes qui se lancent encore dans ces carrières-là, et fort heureusement, pour la suite et pour la relève.
Oui, beaucoup de jeunes vont vers... Il faut démarrer jeune de toute façon, j'imagine.
Oui, mais pas trop jeune non plus pour ne pas se brûler les ailes, hein, puisque la voix est quelque chose de très fragile. Mais le métier d'artiste, en règle générale, les artistes, je dis toujours, sont extrêmement fragiles et sublimes à la fois.
Là, on est dans le registre de l'opéra. Ce sont des techniques sophistiquées, complexes.
Rien n'est naturel. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut se dire.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça fait rêver les jeunes ?
Ben, j'ose espérer que oui, parce que sinon je ne ferais pas ce métier. Moi, j'ai vraiment la sensation d'être une passeuse. Et je pense que dès lors qu'on a la chair de poule et qu'on est traversé par des émotions, à partir de là, c'est gagné. Donc il faut juste... C'est par méconnaissance que les jeunes peut-être s'en désintéressent. Mais il suffirait d'une fois où on est traversé par une émotion épidermique. Et c'est arrivé pas plus tard que l'année dernière, pendant le mois de mars, j'ai créé un petit dispositif qui s'appelait les fenêtres musicales. C'était tout bête, les fenêtres s'ouvraient et les musiciens qui n'étaient pas habilités à jouer dans les salles de spectacle pouvaient donc jouer aux fenêtres. Et donc des musiciens professionnels que j'avais recrutés se présentaient aux fenêtres et jouaient tout simplement. Et j'ai vu un jeune homme qui était dans une petite rue et qui avait porté, vous savez, les Uber Eats dans son dos. Et il avait donc, il portait ce sac à dos Uber Eats et il allait à toute vitesse, je pense, porter sa livraison. Et ce jeune homme, il devait avoir 18 ans à peine, il a fait un dérapage avec son... Il entendait au loin, il a levé la tête, il entendait un violon. C'était du Bach, Jean-Sébastien Bach. Il a fait un dérapage avec son vélo, il s'est arrêté. Et ça, j'ai été témoin de cette scène, il a levé les yeux. Et il y a eu comme un moment de contemplation, de grâce. Il y avait quelque chose, le syndrome de Stendhal, quelque chose qui s'est passé en lui, qui s'est produit en lui. Je pense qu'il a été traversé par une telle émotion. Ce garçon est resté plus de 5 minutes, figé, pétrifié par ce qu'il entendait. Et donc, voilà, il suffit de ça. Et là, c'est gagné. Ce garçon, à jamais, sera à l'affût de tous les sons qu'il va croiser, qu'il va entendre, etc. Donc, il reviendra peut-être dans une salle de spectacle pour entendre, qui sait, un concert. Donc, voilà, je crois en cela, en l'émotion.
Il a été touché par la grâce de la musique.
Complètement, complètement.
Vous nous avez dit que vous avez passé 10 ans en Italie, notamment à Florence. Pourquoi vous n'y êtes pas resté ? C'est magnifique.
C'est une grande question. Je n'en ai toujours pas fait le deuil. C'est mon mari qui est italien et qui a fait le choix de venir travailler en France.
Ah oui, les Italiens rêvent souvent de la France.
Voilà,
alors que nous, on rêve d'Italie.
L'herbe du voisin est toujours plus verte. Après, il faut dire quand même que ce pays qui est là aussi touché par la grâce, c'est un pays où la beauté
est partout
est accessible et même presque banalisée tellement elle est là.
C'est un peu comme à Venise, des choses qui seraient peut-être jugées comme sordides chez nous, qu'à Venise deviennent belles.
Exactement, je ne sais pas, tout est sublimé en Italie. Il y a quelque chose, même la lumière est différente. Bref.
C'est Gianco qui disait qu'on allait faire. On allait en voyage de noces à Venise parce que même si on avait une femme qui n'était pas très belle, un peu moche, à Venise, elle devenait magnifique.
C'est pas mal ça. Oui, et puis, que dire ? Voilà, mon mari a jugé bon de nous faire quitter l'Italie parce qu'il estimait que pour nos carrières respectives, il serait préférable, qu'on aurait plus de chances. Il n'avait pas tort, en réalité, parce qu'il faut dire quand même que cette Italie est gérontocrate, d'une part. Hein ? Donc, si on n'a pas de cheveux blancs, on n'est pas respecté et on ne peut pas avoir des postes à responsabilité. Et deuxième chose, misogyne, malgré tout, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas.
Oui.
Voilà, j'aurais jamais pu réaliser ce que j'ai pu réaliser en France, dans un pays comme l'Italie, qui malgré tout est gangréné par ces pensées-là. Et donc j'aurais eu des difficultés à faire ma place dans ce pays-là. Voilà, mais peut-être qu'un jour j'y retournerai.
Espérons-le. On fait une première pause musicale. Aurélie Barbuccia, vous avez choisi...
Oui, Nuit transfigurée de Schoenberg.
1899.
Oui, la version en sextette, hein, qui est la première version. C'est une œuvre qui me touche tout particulièrement. Déjà, elle s'inspire d'un poème symboliste et qui va vers la vie. Hein. On est dans une nuit, comme son nom l'indique, qui est sombre, qui est ténébreuse. Et puis, petit à petit, on regagne la lumière. C'est l'histoire de beaucoup de couples. Hein. Un couple qui se déchire un petit peu puisque cette jeune femme annonce à son bien-aimé que l'enfant qu'elle porte en elle n'est pas de lui. Donc très dur, c'est un peu ce qui s'est passé chez Joseph quand Marie lui a appris. On a vraiment quelque chose de l'ordre, c'est une histoire qui nous touche tous. Et ce couple, malgré tout, va vers la vie et cet homme accepte d'accueillir cette vie. Et je trouve ça magnifique. Et c'est vrai que c'est sublimement composé par Schoenberg.
Allez, nous l'écoutons.
Thank you.
Voilà, c'était Schoenberg, Verklärte Nacht, la nuit transfigurée. J'espère que mon allemand, qui est déjà ancien, est bon.
Il sera meilleur que le mien, ouais. Quoi qu'il arrive.
Le choix de notre invité, Aurélie Barbuchet. Alors, venons-en à ce qui est votre métier aujourd'hui, après avoir évoqué votre parcours. Vous avez posé vos valises à Montauban et vous êtes devenue la directrice du théâtre de Montauban, mais aussi de, il y a deux salles. Il y a
voilà, Rythmie, des salles de spectacle,
des salles de spectacle
qui, voilà, qui sont composées de deux théâtres, hein, le Théâtre Olympe de Gouges et la salle Rythmie, qui est une salle modulable qui se situe en zone périurbaine.
Oh, pas tant péri que ça. Oui. Je viens de passer devant en arrivant.
Oui, enfin,
je ne savais pas qu'elle était là.
Il n'est pas dans le cœur historique, voilà. On va dire, de Montauban, mais c'est beaucoup plus pratique pour cigarer.
Absolument. Alors, quand on est directrice de salle de spectacle, ça consiste en quoi? Quel est votre quotidien?
En réalité, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'on fait tout, et son contraire. Vraiment, être directrice, c'est avoir un œil sur la propreté du lieu dans lequel on accueille le public, jusqu'à faire des choix de programmation, aller voir des spectacles, etc. Ça va vraiment... Alors, je pense qu'une des choses à laquelle je tiens tout particulièrement dans cette fonction, c'est d'incarner. C'est-à-dire qu'un théâtre, ce n'est pas qu'un lieu, ça s'incarne. Et comment ça s'incarne? Eh bien, en créant du lien, avec le public. C'est-à-dire que le public, quand il arrive dans un théâtre, il doit sentir qu'il est chez lui, et d'autant plus parce qu'il y a cette notion de service public, et donc je suis très fière de travailler pour une scène municipale qui a pour principale mission de finalement proposer le théâtre comme un service comme un autre. Finalement, on peut aller à l'état civil, on peut aller au théâtre. Et je crois beaucoup en fait que le théâtre...
À part que tout le monde va un jour à l'état civil, mais tout le monde ne va pas un jour au théâtre.
Non, mais c'est à nous d'y travailler. Voilà, il faut vraiment que les citoyens s'emparent de leurs équipements culturels municipaux. Parce qu'ils sont pour eux. Et nous ne pouvons subsister que grâce à eux. Et donc, il faut qu'ils sachent qu'ils sont chez eux. Dès lors qu'ils payent leurs impôts, je veux dire, on est clairement, on leur offre un service qu'ils ont eux-mêmes, pour lequel ils ont eux-mêmes contribué. Voilà, donc c'est ça l'idée. Et donc, du coup, ça s'incarne de quelle manière? Eh bien, une directrice de théâtre, pour moi, doit être présente à toutes les représentations, accueillir le public, être là aux côtés de l'équipe, accompagner l'équipe, que ce soit l'équipe technique, l'équipe de billetterie, l'équipe plus administrative. Et puis, bien sûr, il y a aussi beaucoup, il y a toute une dimension, on va dire, juridique, contractuelle, hein, puisqu'il y a tous ces contrats. Une fois qu'un spectacle est choisi, ben, il faut aller dans... Il y a une forme de négociation, malgré tout. Hein, donc, ça, c'est aussi gérer un budget. Voilà, le budget, on le sait, hein, qui est toujours de plus en plus contraint, quoi qu'il arrive.
Donc vous, vous êtes le patron d'une entreprise culturelle.
En tout cas, oui, j'aime pas trop la notion d'entreprise, mais oui, il y a cette dimension-là, malgré tout, il ne faut pas le nier. On doit gérer un budget, on doit négocier pour faire en sorte que l'argent public soit le mieux utilisé, exploité, et on doit chercher le meilleur pour les usagers qui nous sont confiés. Donc moi, voilà, je prends mon bâton de pèlerin et je vais voir tous les spectacles qui me semblent susceptibles d'intéresser, d'éclairer, de nourrir les publics qui le sont
comment, confiés. Alors justement, comment on le nourrit ce public? Est-ce qu'on le nourrit de choses qu'il a envie de manger, pour reprendre la métaphore ou alors est-ce qu'on lui fait goûter des plats nouveaux qu'il ne connaît pas, qu'il va peut-être être un peu surpris, choqué ou adhérer? Comment ça se passe?
C'est un savant mélange de tous ces aspects-là. C'est-à-dire qu'il s'agit à la fois, bien sûr, de l'amener vers des choses qu'il a envie de voir, puisque, voilà, donc lui offrir ce qu'il aurait en tête, ce qu'il aurait à l'esprit, donc déjà le deviner, et puis lui permettre de le trouver là où il se trouve, parce que ça, je crois beaucoup aussi à la décentralisation culturelle. Il ne faut pas que les meilleures pièces de théâtre soient visibles uniquement à Paris. Il faut que le public qui se trouve en province, puisqu'on est, ou dans nos, comme on dit, dans nos territoires, dans les territoires, puisse avoir accès partout à ce qu'il y a de meilleur. Voilà.
Ce n'est pas moi qui vous dirais le contraire.
Voilà, exactement.
Vous savez pourquoi.
Bien sûr. Et puis, il faut l'amener aussi à être curieux.
Alors, donc, il y a quand même plusieurs obstacles. D'abord, ici, c'est du spectacle, à Eurythmie, c'est du spectacle vivant.
Oui.
Ce qui veut dire que les gens doivent sortir le soir, acheter leurs billets, s'habiller, quel que soit le temps, circuler, se garer leur voiture, venir. Vous avez quand même une grosse concurrence des écrans, j'imagine. Est-ce que ça se sent ou pas? Est-ce que... Bon, il y a eu le Covid, alors on met le Covid à part, entre parenthèses, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais est-ce que les gens sortent encore et est-ce que ceux qui sortent sont des jeunes ou alors vous avez, comme un peu en Italie, un public un peu chenu dans la salle?
Alors, je pense que le spectacle vivant a échappé à la dérive, aux sirènes de l'écran et du confort. Il y échappe parce qu'on a tenté, hein, pendant... J'ai senti la menace très forte. On a tenté de nous enfermer derrière des écrans, de proposer du théâtre à la télé ou de proposer du théâtre en streaming ou en live stream, comme ils disent, puisqu'on utilise ces termes anglais. Et ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que le public, justement, ce qu'il vient chercher dans le spectacle vivant, c'est l'ici et le maintenant, le hic et nunc, c'est le temps
comme
présent et c'est former une communauté de spectateurs. C'est-à-dire que, allez-vous applaudir devant votre écran à la fin d'un spectacle? Je ne crois pas. Ou si vous le faites, vous allez vous sentir complètement ridicule. Vous êtes quand même, c'est une expérience solitaire. Or, il me semble que le public, quand il vient, en effet, il s'habille, il s'apprête, il nous rejoint pour une soirée au théâtre. Cette sortie, c'est justement pour rejoindre les autres et pour former une communauté de spectateurs. Donc la dimension communautaire est très forte. Et je dirais que de la même manière que vous ne pourriez pas consommer ou voir derrière votre écran un beau poulet rôti appétissant et penser que ça peut remplacer ce que vous allez avoir dans votre assiette, parce que vous n'aurez pas l'odeur, vous n'aurez pas le bruit, vous n'aurez pas... Tous les sens sont mis en éveil hein, dans le théâtre, dans le spectacle vivant. Tous. Vous avez l'odeur, vous sentez la transpiration presque du comédien.
À part qu'il faut faire un effort et que notre société est de moins en moins habituée à l'effort.
C'est vrai.
Il faut venir.
Il faut venir. Donc voilà, ce qui s'est perdu par contre, c'est cette démarche de la sortie. Et ça, il faut qu'on y travaille, on y travaille activement, de manière à ce que le public retrouve le goût de la sortie. C'est-à-dire qu'il n'ait pas l'envie de mettre ses pantoufles le soir et de s'enfermer dans une forme de confort qui, de toute manière, est stérile, à mon sens. Je pense que vraiment, ce qu'on trouve ici est une nourriture qui donne beaucoup plus d'énergie pour la suite.
Est-ce que cette nourriture, je suis d'accord avec vous, est-ce que cette nourriture nécessite une pédagogie particulière? On ne vient pas voir des spectacles d'opéra ou de théâtre, certains auteurs sont un peu compliqués, ça peut être aride. Est-ce qu'il faut avoir une connaissance avant? Est-ce qu'il faut savoir aimer? Est-ce qu'il faut avoir appris à aimer?
Mais c'est là toute notre mission. C'est-à-dire que nous devons... quand je disais il faut aussi inviter le public à être curieux, eh bien, il ne suffit pas de lui dire fais cette découverte, franchis le pas, viens voir ce spectacle de théâtre contemporain, etc., sans, et en le livrant à lui-même. Non, parce que ça va être un échec. Ce qu'il faut, c'est lui donner la main, l'accompagner avec une forme de confiance mutuelle et lui expliquer, lui donner les clés.
C'est la dramaturge qui parle.
C'est la dramaturge qui parle. Mais en réalité, ça fait partie, c'est le cœur de mon métier. Et je pense qu'on n'y arrive pas. On n'arrive pas à l'amener vers un ailleurs, vers autre chose, si on ne l'a pas aidé, si on l'a abandonné.
Est-ce que cette aide va jusqu'à expliquer avant ou après la pièce ou l'opéra ce qui s'est joué, ce qui va se jouer?
Absolument. Je pense que ça va. Moi, j'essaie toujours de prendre la parole et de dire un petit mot avant les spectacles. Donc ça passe par là, ça passe aussi par des temps comme ça de conversation informelle dans les couloirs, dans les circulations, parce que souvent le public a des questions très pertinentes et ces questions-là lui permettent justement d'accéder à telle ou telle connaissance, de mieux apprécier tel ou tel spectacle. Parfois c'est des formes de critiques mais qui sont en fait des interrogations et en y répondant... On voit tout de suite que ça mûrit en la personne et c'est, voilà, c'est...
Et ça vous arrive d'organiser des contacts avec, une fois que la pièce ou l'opéra est terminée, avec le public et les acteurs?
Les bords de scène, ça j'y tiens tout particulièrement.
Vous faites régulièrement?
Absolument, presque, alors je dis pas systématiquement, parce que c'est aussi à la bonne volonté, selon la pièce qui a été jouée, selon la disponibilité aussi, si ça a été trop long, etc. Mais il y a des fois, ça s'impose. On a reçu une pièce très dure et en même temps très coup de poing, qui s'intitule « Les chatouilles ». Qui traite de la pédophilie, il me semblait inévitable et très opportun de faire un bord de scène, de demander à la comédienne de quitter ce rôle qui est très dur, mais même pour elle, mais aussi pour le public qui ne repartirait pas du coup avec un mal de ventre, avec les jambes coupées de ce qu'il venait d'entendre, pour justement laisser le personnage de côté, et puis on se parle et on pose des mots sur ce qu'on vient d'entendre, sur ce qui nous a traversé. Et on repart tous beaucoup mieux. Donc je pense que c'est très très important pour certains spectacles. Pour d'autres, ça l'est peut-être moins. Mais en tout cas, on essaie de le proposer très régulièrement, oui, au public.
Vous allez vers le public jeune, vous faites des formations ou des spectacles dédiés peut-être, ou
oui,
des moments, oui, de spectacles dédiés aux jeunes?
Oui, tout à fait. Déjà, j'ai la chance, depuis ma prise de fonction, d'avoir un médiateur culturel qui est ici sur place et qui va dans les établissements scolaires, qui va auprès d'associations, qui gère des publics dans les quartiers prioritaires.
Ça s'appelle un missionnaire plutôt qu'un médiateur.
Oui, il vient porter un peu la bonne parole et puis il travaille du coup sur des spectacles qu'on a ciblés, hein, qui conviennent à ces publics-là. Et donc, il les prépare en quelque sorte de manière après à les faire venir, mais en connaissance de cause, en ayant intégré le rôle du spectateur, en sachant, en connaissant les codes aussi, parce qu'il y a des codes malgré tout qui méritent d'être connus quand on se rend dans une salle de spectacle. Et donc, tout ça, c'est un travail au long cours, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a une notion d'une instauration de confiance entre ces publics-là, un peu éloignés de la culture, et ce jeune médiateur qui, justement, par sa jeunesse, parle particulièrement. Il faut
un jeune pour parler aux jeunes.
Ça aide, en tout cas. Je pense que ça aide. C'est vrai que les jeunes ont cette tendance à exclure d'emblée. En tout cas, il faut avoir un esprit jeune. Si ça ne se voit pas dans l'âge, il faut au moins qu'il y ait une capacité à dialoguer, à se mettre à la portée d'eux. C'est ça, c'est cette humilité aussi, hein, qui est demandée pour travailler avec les jeunes. Et je crois vraiment que ça paye. Et puis, on a mis en place ce dispositif Pass Culture. Alors là, c'est le tout début, hein, pour nous. Ça a commencé au mois de janvier. Et on a vraiment cherché à cibler des spectacles qui pourraient convenir à ces néo-spectateurs. Et j'espère que ça va prendre. En tout cas, nous, on y met tout notre cœur et notre énergie dans ce Pass Culture.
Alors, qu'est-ce qu'on peut voir actuellement, ou qu'est-ce qu'on va voir dans les semaines et les mois qui arrivent dans vos salles?
Alors, déjà, le week-end prochain, donc à savoir samedi 5 février, nous allons recevoir un co-plateau d'artistes, donc une soirée avec deux artistes, le slammer Gauvrache, et la chanteuse Luciole, qui est passée également par le slam, mais qui maintenant déploie toute sa voix. Et ces deux artistes ont des points communs et avaient envie de travailler ensemble et de proposer du coup un concert assez fort, où bien sûr la langue est à la fois polie et impolie, où parfois c'est irrévérencieux dans les textes. Mais en tout cas, il y a toujours un soin, bien sûr, accordé au texte. Et à la manière de le transmettre. Donc, je pense que ça va être une très belle soirée où on met à l'honneur la chanson française avec ce qu'il y a de plus intéressant aujourd'hui, on va dire, dans ce domaine.
Un slammer, ça va bousculer un peu votre public classique?
Oui, mais il faut...
Ils vont venir quand même?
Alors, je ne sais pas si le public qui vient, par exemple, qui est venu pour le concert de l'Orchestre du Capitole de Toulouse, aura la curiosité d'accéder à celui-ci. Je sais par contre que ça plaît beaucoup à un public littéraire, parce que justement, le texte, hein, le soin du texte, ils sont sensibles, enfin, ce public-là est sensible à cela. Et puis, bien sûr, ça peut rajeunir aussi un public, ça peut faire venir un public, par exemple, d'un peu plus loin, pour voir des artistes qui sont, certes, qui commencent à avoir eu des prix et qui commencent à sortir un peu du lot, mais malgré tout, qui restent encore un peu confidentiels. Et c'est là aussi l'idée, c'est une forme de découverte, et c'est important, voilà, de varier. De toute manière, il s'agit de s'adresser à tous, donc voilà. Et puis dimanche, là c'est une proposition beaucoup plus familiale, dimanche 6 février, je reçois le 5e Hurlant. C'est une compagnie circassienne dirigée par Raphaël Boitel, qui est une enfant du pays.
Circassienne.
Voilà, une circassienne qui est très attachée à Montauban.
Un circassien, c'est tous les arts du cirque.
Tous les arts du cirque, voilà, ouais, tout à fait. Et donc cette proposition cirque, donc qui sera à 16h le dimanche, donc vraiment un horaire idéal pour convenir à tous les âges. Eh bien, va mettre à l'honneur, c'est un hommage qui est rendu justement à ces athlètes, hein, parce que ce sont des athlètes, hein, les circassiens, qui tous les jours tombent et se relèvent, qui répètent et répètent encore. C'est vraiment un hommage rendu à ces artistes sublimes et à la fois très fragiles, très vulnérables que sont ces circassiens. Et donc voilà, on sera dans un univers avec une noirceur un peu à la Caravage. Il y a vraiment une finesse et une poésie que Raphaël Boitel s'est manié avec beaucoup d'adresse.
Alors ça, c'est...
Ça, c'est le dimanche 6 février à Eurythmie. Donc le cirque, généralement, je l'accueille à Eurythmie. C'est une salle qui vraiment permet de grosses formes comme celle-ci. Et voilà, donc une proposition adressée aux familles. On a un humoriste, Alex Vizorek, hein, qui manie les mots avec... il a l'art de la jonglerie des mots. Ça, c'est le 10 février. On a Cyrano, avec une très belle adaptation de cette très belle pièce d'Edmond Rostand, qui pour moi est la pièce des pièces, hein, en tout cas voilà, la plus accessible, la plus vraiment, elle est à portée de main, elle est indémodable, elle n'a pas pris une ride. Et c'est une compagnie de Nice, la compagnie Miranda, qui adapte cette pièce de Cyrano en la plongeant dans l'univers de Méliès. Donc on est dans l'univers un peu cinématographique avec ce côté très millimétré. Et je pense que ça sera une très belle soirée là aussi. C'est le mardi 15 février. Et puis on démarre après les journées aux Lames de Gouges. Donc on a deux et trois soirées même qui sont dédiées et qui entrent en résonance avec les journées aux Lames de Gouges, avec la figure de Lames de Gouges et avec la journée des droits internationaux de la femme, et donc la journée de la jupe, par exemple, Olympe de Gouges plus vivante de jamais, qui est une création autour d'Olympe de Gouges. Et puis Maxime Le Forestier aussi, au passage. Enfin voilà, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais on a une proposition, enfin, des propositions artistiques qui sont très variées, pluridisciplinaires, et qui s'attachent à contenter et à satisfaire tous les publics.
Et Clémentine Sélarié,
C'est ce soir. Oui, elle va nous rejoindre là dans quelques heures.
Une seule représentation.
Oui, généralement, c'est ce qu'on appelle des one-shots. Je fais que des one-shots. L'exception peut-être, c'est le week-end dernier, j'ai reçu François Morel avec son très beau spectacle en hommage à De Vos, J'ai des doutes. Et là, j'en ai fait deux parce que je savais que je n'allais pas, que le public serait insatisfait de ne pouvoir participer, prendre part à cette représentation. Donc j'en ai fait deux. Mais c'est très rare que je le fasse parce que malheureusement, dans nos provinces, on a guère la possibilité de remplir deux fois la même salle.
C'est la question que j'allais vous poser.
C'est une question de remplissage.
Voilà. Et combien de places d'ailleurs à Montauban ?
Alors, au Théâtre Olympe de Gouges, on a 465 places. Et à Eurythmie, ça va jusqu'à 1500 places. Généralement, je n'en vends que 1100 pour préserver la visibilité, la qualité d'écoute. Et voilà, donc 1100.
J'imagine que phoniquement, ça ne doit pas être pareil entre le théâtre et Eurythmie.
Non, en effet, on est vraiment... C'est deux salles complètement disparates. Et
Eurythmie, avec des publics différents.
Avec aussi, en partie, des publics différents, même si ça se croise. Mais c'est vrai qu'à Eurythmie, étant donné que les propositions, généralement, ce sont des propositions cirque ou musique actuelle, ou bien du théâtre, mais plutôt théâtre de boulevard, mais j'en reçois très, très peu dans la saison. C'est sûr qu'on est sur d'autres types de publics. Et puis, il y a aussi un public qui juge très pratique, hein, d'accéder très facilement à la salle, de s'y garer, etc. C'est plutôt des propositions très familiales et très grand public, on va dire, à Eurythmie. Ici, c'est vraiment l'antre du spectacle, du théâtre, on va dire, qu'il soit contemporain ou classique. Généralement, c'est plus au théâtre que je le fais. Voilà. Les grands ballets aussi, parfois, de danse, c'est à Eurythmie.
Vous avez une équipe importante sur les deux salles pour l'équipe technique,
administrative. On est 19 agents en tout.
Oui, c'est quand même beaucoup.
Oui, oui et non. C'est quand même une petite équipe pour deux salles. Et puis pour toute une saison et puis tous les à côté, parce que ce que l'on ne sait pas, c'est que les salles de spectacle, bien sûr, ont leur saison culturelle, mais au-delà de cela, il y a des mises à disposition de nos salles dans le cadre de congrès, de salons, de conférences et d'événements de toutes sortes, et il faut aussi pouvoir les accueillir. Donc le planning est très très chargé, très dense. Et 19, ben, ça fait 12 agents, on va dire, techniques, purement techniques, et tout le reste, c'est de l'administratif. Ça fait pas lourd, croyez-moi.
Vous faites pas de spectacle en même temps dans les deux salles, c'est l'une ou l'autre?
Oui, oui. Ah, sinon... Oui, sinon je me porte concurrence à moi-même, ça n'a pas de sens. L'idée, c'est bien sûr de savoir composer un calendrier qui puisse permettre au public justement de se remettre de digérer une représentation pour rebondir sur une autre. Voilà, donc il faut laisser toujours quelques jours au moins.
Je vous propose, Aurélie Berbuchat, que nous fassions une deuxième pause musicale. Alors celle-là, c'est moi qui l'ai choisie. Je vous emmène dans la Lune, hein, le voyage dans la Lune. On va écouter Le Prince qui passe par là. Ça a été joué pour la première fois au Théâtre de la Gaîté à Paris en 1875. Donc on fait un grand saut dans le passé. Opéra d'Offenbach avec un livret d'Albert Van Loo. Donc on écoute Le Prince qui passe par là.
Le prince qui passe par là, le prince qui passe par là, c'est Bibi, c'est Bibi, c'est Bibi, le voilà. Le prince qui passe par là, le prince qui passe par là, oui c'est Bibi, c'est Bibi, c'est moi, c'est Bibi, le voilà. Amenez-moi les jeunes femmes, accourez mes petites dames, accourez mes petites dames, accourez, je ne vous dis que ça. Le prince qui passe par là, le prince qui passe par là, c'est moi, c'est Bibi, le voilà, le voilà, le voilà. J'en vends, je n'achète pas ma sépiquette sans les marchander et sans m'arrêter. Oui, j'en vends, je n'achète pas ma sépiquette sans les marchander et sans m'arrêter. Les brunes, les blondes, les plates, les rondes, les yeux noirs ou bleus, venant de tous lieux, petites et grandes, sans bruse et gourmandes, pour avoir de tout, j'ai passé partout. J'en ai de coquettes, j'en ai de discrètes, ma collection vaut un million. J'en ai de savantes, bonnes et méchantes, c'est numéroté, placé bien côté, c'est numéroté, placé bien côté. Le prince qui passe par là, le prince qui passe par là, c'est Bibi, c'est Bibi, c'est Bibi, le voilà. Le prince qui passe par là, le prince qui passe par là, oui, c'est Bibi, le voilà, le voilà. C'est moi, c'est Bibi, le voilà, le voilà, le voilà. Le prince qui passe par là,
voilà, nous retrouvons notre invitée Aurélie Berbuchat. Enfin, c'est plutôt moi qui suis son invitée, puisqu'elle a eu la gentillesse de me recevoir dans son théâtre, le théâtre L'Âme de Gouges de Montauban, le théâtre qu'elle dirige. On est où dans cette salle? C'est une salle qui...
C'est le petit foyer.
Le petit foyer, bon, qui est charmant.
Oui, c'est là où le public, pendant les entractes, se réchauffait, hein, puisque à l'époque, il n'y avait pas les chauffages qu'on connaît, donc il y avait ces fameux foyers. Et le public venait se réchauffer avant de regagner la salle. Voilà.
Alors, Aurélie Berbuchat, quand vous ne vous occupez pas de théâtre, d'opéra, de spectacles divers, qu'est-ce que vous faites? J'ai noté que vous avez été bénévole au sein du groupe Elba, alors je ne sais pas ce que c'est.
Oui, ça c'est quand j'étais en Italie, hein, ça remonte. C'est-à-dire que je prenais part tout au long de l'année, mais surtout pendant les vacances, on prenait soin d'aller visiter des personnes en situation de handicap, de toutes sortes d'ailleurs. Ensuite, on prenait des vacances à leur côté, avec eux, en les assistant bien sûr, puisqu'ils avaient des contraintes qu'on peut imaginer, et on les amenait dans un cadre tout à fait idéal sur l'île d'Elbe. Donc chaque été,
tout le monde n'a pas trouvé que c'était idéal. Moi, je pense à
Napoléon. Ça, c'est son problème.
Son séjour était idéal.
En tout cas, voilà, cette île est quand même assez, assez formidable. Et puis, donc, elle est face à la Toscane où je séjournais, où j'ai résidé à l'époque. Et voilà, chaque été, on portait donc ces personnes en situation de handicap sur l'île d'Elbe pour qu'ils aient des temps de vacances et d'amitié aussi, hein, de partage et que leur dignité soit restituée. Voilà.
L'aviron, c'est quelque chose.
Ça, c'est de... en plus, alors vraiment,
donc,
l'aviron.
Vous ramez où sur la. Qu'est-ce qui passe d'ailleurs à Bondoubo?
Non, je suis absolument pas courageuse. Sachez que je fais de l'aviron en rameur, exclusivement en salle. Donc, non, absolument pas. Je ne maîtrise pas le Tarn. Maintenant, il y a des cours d'aviron en salle et ça me va très bien.
Et vous jardinez où ça, en serre ou alors à l'extérieur?
Non, à l'extérieur, je jardine beaucoup parce que j'ai la chance de vivre, d'être immergée dans le vert et j'aime beaucoup avoir le contact avec la terre, mettre les mains dans la terre. Voilà.
Vous qui êtes une femme de culture, lorsque je vous ai dit une œuvre d'art, parlez-moi d'une œuvre d'art, vous avez dû avoir un peu du mal à choisir.
Oui, c'est pas évident parce que évidente. Mais j'ai réfléchi un peu. Et j'ai choisi donc la Chiave del Sogno, qui est une œuvre donc d'un japonais qui s'appelle Yasuda Kan et qui se situe à Pietrasanta. Pietrasanta, c'est un village, c'est le village des sculpteurs.
Qui est au bord de, Carrara.
Alors voilà, il y a Marina di Pietrasanta qui est vraiment sur la côte et Pietrasanta qui est un peu dans les terres. Et qui est un village, alors si nos auditeurs nous entendent, il faut absolument y aller un jour parce que c'est un dépaysement et c'est vraiment le lieu de la sculpture, c'est-à-dire au-dessus on lève la tête, on a les montagnes de Carrare, donc on a l'impression que c'est de la neige, mais non, c'est du marbre, c'est des carrières de marbre, c'est quand même formidable, on voit la mer et on a donc ces sculpteurs qui ont œuvré dans cette ville et qui ont travaillé dur avec ces matériaux complexes et à la fois extrêmement raffinés. Et donc, quand on arrive et qu'on arrive à la gare, devant la gare, il y a cette formidable œuvre gigantesque de ce japonais, la Chiave del Sogno, qui veut dire donc la clé du rêve, que l'on peut traverser, toucher, caresser. C'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que c'est une œuvre dans laquelle je me suis complètement immergée. Et ça, je trouve ça formidable, parce que moi, c'est ce qui me gêne un peu dans les musées. J'avoue que j'ai envie de toucher, j'ai envie de palper. Voilà, j'aime le contact, malgré tout. Et j'aime, en fait, je crois que j'aime le vivant, en fait. Hein. Donc, c'est peut-être aussi l'immobilité des choses qui me gêne. Et donc là, moi, j'ai l'impression que c'est une sorte d'œuf géant, tout de marbre blanc, parce qu'en plus, le marbre, il y a ce côté soyeux, c'est un véritable rêve, et on rentre à l'intérieur, et alors, qui sait ce qu'on peut rêver Enfin voilà, je trouve que c'est une œuvre extraordinaire, et qui est devant la gare, donc c'est magnifique, et qui nous permet d'accéder à ce village qui vaut vraiment le détour, Pietrasanta.
Que j'ai bien connu pour y avoir passé quelques vacances.
Et puis après, je crois que j'avais dit l'Angélus.
Oui, l'Angélus de Millet,
on était plutôt dans la peinture. Qui me touche beaucoup, voilà, cette piété populaire, j'aime beaucoup.
Alors les moments décisifs dans votre vie, il y en a eu plusieurs. Le premier, c'est Louise.
Oui, c'est vrai que vous me demandiez des moments particuliers. Je pense qu'il y a eu une vraie rupture à ce moment-là. Une rupture heureuse, mais on dit ça a posteriori. Ça a été une naissance très compliquée et un début de vie qui a duré 2 ans très très compliqué aussi. On est passé par la neurochirurgie, par beaucoup d'étapes très. On s'est battu pour qu'elle vive, tout simplement. Donc c'était ma première expérience de grossesse et d'accueil de la vie. Et elle s'est déroulée de manière complètement improbable. Et donc on n'était pas armés, on n'imaginait pas ce qui allait nous tomber dessus. Et je crois que c'est un monde parallèle qui m'a appris beaucoup, le monde des hôpitaux. J'ai vécu beaucoup en hôpital, du coup. J'ai été Voilà, beaucoup dans ces services où on attend les réponses, où on cherche à capter l'attention des chirurgiens qui ne daignent pas parce que...
Oui, on ne leur apprend pas l'empathie dans leurs études.
Non, je crois que c'est aussi très très compliqué parce que... Moi, je pense que cette distance, je me suis questionnée beaucoup à leur sujet parce que je me disais, mais ils sont dépourvus d'humanité, c'est pas possible. Et pourtant, c'est des gens qui ont sauvé ma fille, donc je ne peux que leur être redevable. Mais malgré tout, je pense qu'ils doivent maintenir une distance... Parce que parfois ça fonctionne, et c'est mon cas, et aujourd'hui vraiment je ne peux que remercier, mais parfois ça ne fonctionne pas, et les parents repartent seuls, sans leur enfant. Et voilà, donc ça je l'ai vu, j'en ai été témoin, et donc bien sûr ça m'a bouleversée, puisqu'à l'époque, moi je chantais, j'avais initié une carrière de chanteuse lyrique, et j'étais un peu sur les routes, etc. Et ça a stoppé net le chant d'une part, parce que j'en ai perdu la voix, j'ai arrêté net, je n'ai jamais plus chanté. Si ce n'est sous la douche, et encore que. Et voilà, et donc du coup, c'est vrai que ça m'a permis aussi de comprendre aussi que la voix était très liée à l'ego, et je n'avais pas forcément envie de ça, puisque finalement, quand on travaille, quand on lutte, ça peut l'être. En tout cas, moi, dans mon cas, ça l'était. Et donc, du coup, je me suis décentrée de moi-même. J'étais peut-être trop auto-centrée à l'époque, et là, se battre pour un autre... et notamment pour la vie d'un autre, quitte à en laisser, moi j'étais prête à laisser la mienne, hein, s'il fallait y laisser ma peau, je l'aurais fait, vraiment, je pense qu'il y a un moment où on atteint ce seuil-là, ça permet, c'est un changement de paradigme total, et à partir de là, j'ai démarré une autre vie, je pense, oui.
La personne qui vous a le plus marqué, qui vous a éventuellement inspiré?
J'ai fait des rencontres formidables et je dois dire qu'il y a des... J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de personnes, même célèbres. Mais il y a des personnes comme ça qui m'ont marquée parce que j'ai vraiment eu l'impression d'être face à des... Là, en l'occurrence, c'était des hommes, des grands hommes. En l'occurrence, Arcabas. Arcabas, qui est cet artiste qui se situe à Saint-Pierre de Chartreuse, qui est décédé maintenant, et qui m'a conviée dans sa maison... à Saint-Pierre de Chartreuse, où il a d'ailleurs offert toutes ses œuvres de peinture sacrée. Il y en a une à Toulouse, à Saint-Sernin. Enfin, c'est formidable son travail. Et cet homme vraiment m'a marqué. Pas parce qu'il a fait des choses extraordinaires, ni même qu'il a raconté des choses extraordinaires. C'est sa présence, ce qu'il était. Il rayonnait. Il y avait quelque chose. Il irradiait, je dirais. Il irradiait. Je me suis sentie vraiment très privilégiée que de me retrouver dans son univers, dans sa maison, près de son atelier, et de prendre un thé avec lui et d'avoir cet honneur. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'a profondément marquée, cette figure-là. Et puis Maurice Baquet aussi m'a beaucoup marquée. J'ai beaucoup fréquenté dans mon enfance. Il jouait beaucoup au théâtre de mon père.
Un montagnard aussi.
Un montagnard, quelqu'un...
Qui est décédé à, je crois, 94 ans.
Oui, tout à fait. Il a vécu très tard. Et je suis toujours très en lien avec la famille Baquet, avec tous les fils et filles Baquet, qui sont d'ailleurs tous comédiens, chanteurs extrêmement talentueux. Grégory en particulier, et Anne, et enfin voilà. Et c'est vrai que Dimitri, toute cette famille-là m'a marquée. C'est une famille qui est très liée à la nôtre, finalement. Il y a eu, Donc, c'est un être qui m'a marquée par son humilité, par son...
Et pourtant, grand artiste.
Immense artiste. Jusqu'au bout. Parce qu'il venait jusqu'à très tard. Et je me rappelle les dernières années, quand il venait au Festival d'Avignon... Ça remplissait pas bien parce qu'il était peut-être maintenant, il était peut-être plus méconnu et il disait mais je vais pas punir le peu de public qui vient me voir et une humilité extraordinaire, une personne vraiment immense.
Maurice Baquet, oui, qu'on revoit ou qu'on entend toujours avec grand plaisir. Aurélia Barbuchon, Aurélia, oui, je
beaucoup m'appellent Aurélia.
Voilà, on a tendance un peu à italianiser, hein, Aurélie Barbuchon. Nous arrivons à la dernière séquence de notre émission, la séquence littéraire, parce qu'avec moi, on parle toujours de livres. Alors, quel a été votre choix? Très classique, hein, votre choix, je vous laisse en parler.
Oui, j'ai hésité, parce que ce n'est pas évident de savoir quel... Je suis redevenue dans ma bibliothèque, j'ai flâné, j'ai sorti des livres, mais c'est très difficile, parce que j'étais tiraillée entre deux choses complètement distinctes. Donc, le Comte de Monte-Cristo, qui... c'est la lecture plaisir par excellence, parce que j'aime le plaisir, voilà. Et puis, Une vie bouleversée d'Etil Zoom, qui m'a aussi énormément marquée. Mais vous avez vu la bis, voilà. Donc, oui, comme quoi, non, mais comme quoi, on peut
un
vraiment
grand
passer.
Écart, mais c'est le plaisir de lecture.
Oui, voilà, c'est le plaisir de la lecture. Après, voilà, j'ai finalement penché pour Le Comte de Monte Cristo parce que je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu et qui mériterait d'être lu partout, toujours, à voix haute, avec tout le monde, dans les rues. Je pense vraiment que ce roman feuilleton a, de par la manière dont il a été écrit, la finesse, les histoires qui sont racontées, parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est qu'on me raconte des histoires, et elles sont fort bien racontées par Dumas. Voilà, je trouve ce livre extraordinaire, et je peux le lire 20 fois, 30 fois, je pense que je m'en lasserai jamais. Et aucun des personnages ne m'échappe, et notamment Faria, l'abbé Faria, c'est mon... Voilà, j'aimerais le rencontrer, qu'on converse un peu.
Alors moi, je vais vous parler d'autre chose. On a parlé de Japon tout à l'heure. Haruki Murakami, vous connaissez?
Oui.
Vous lisez, voilà, son dernier livre.
Ah ouais.
Je suis allé l'acheter après notre première rencontre il y a quelques jours.
Ah d'accord.
C'est le dernier livre sorti, La première personne du singulier, chez Belfond. Mm-hmm. C'est le monde de Murakami. Alors, en livre, ça ne se raconte pas, d'abord. Mais enfin, on va retrouver dans Murakami cette ambiance si spéciale. Il faut aimer, hein. C'est une ambiance très particulière. Moi, j'y suis extrêmement sensible. C'est très attachant. Il a une petite musique tout à fait particulière. Et là, dans Première personne du singulier, c'est une série de nouvelles, d'aventures, qui ne sont pas très aventureuses, d'ailleurs, mais d'aventures ou de réminiscences de l'auteur qui vont constituer un portrait impressionniste d'Haruki Murakami, qui est aujourd'hui traduit, je crois, un peu partout, qui a une vie un peu spéciale. C'est certainement le plus grand écrivain japonais, à tout le moins le plus connu dans le monde entier. Donc c'est un vrai bonheur de lecture, je ne vous en dis pas plus. Vous pouvez
d'accord.
vous y précipiter. Haruki Murakami, première personne du singulier. Et chez Belfond, son éditeur classique depuis toujours. Ben c'est lui qui avait écrit, je ne sais pas si vous l'avez lu, Kafka sur le rivage, notamment.
Oui, tout à fait. Si, alors, je ne sais pas si je l'ai fini, par contre. Je crois que je m'étais arrêtée en cours de route.
Mais des fois, on s'arrête et puis on reprend.
Oui, voilà. Moi, je suis une spécialiste de ça.
Il faut les dispositions.
Je démarre et j'ai du mal à... Parfois, je ne vais pas jusqu'au bout.
Aurélie Barbuchat, merci de nous avoir reçus dans votre monde du théâtre
merci
Olympe
à vous
de
d'être
Rouge,
venu.
À Montauban, ben c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup.
C'était Cap à Cap, une émission de Jacques Lavergne, avec à la technique et au montage Tiffaine Lemaine, que je remercie. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission et bien sûr ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous.